10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et tous les samedis en direct, une heure pour parler d'islam sur Beurre FM. Ça s'appelle l'islam au présent avec l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour imam Abdelali.
Bonjour Philippe, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis ravi d'être avec toi ce matin pour une nouvelle émission qui précède le ramadan, bientôt le ramadan Inch'Allah. Et en espérant que nous puissions
l'accueillir. Est-ce que vous avez regardé la lune ce matin, comment elle était belle?
La lune de Rajab. Ouais. C'est vrai qu'elle est grosse.
Elle était grosse. Magnifique, la lune, ce matin.
Il y a eu même un magnifique coucher de soleil hier soir. Mais c'est à cause du sirocco, ça, non?
Non, il n'y a plus.
C'est pas les traces radioactivité qui ont fait ça dans le ciel.
C'était très rose, mais le sirocco, il est parti.
Ah ouais. Il a dégueulassé toutes les bagnoles.
Voilà. Non, mais moi je parle de la lune parce que cette lune finalement c'est celle qui va nous accompagner pendant tout ce mois et on est tous très attentifs à la lune, les jours qui précèdent, on se dit tiens, la lune est pleine, ça veut dire qu'on est à 15 jours quoi. En gros, c'est ça que ça veut dire.
Exactement, tout à fait. Et de toute façon cette année, il y aura pas de suspense, le Ramadan débutera le 2, c'est-à-dire samedi 2 avril.
Ça c'est vous qui dites qu'il n'y a pas de suspense. Moi j'ai dit il y a un doute.
Ben non, puisque le premier,
il y a un doute.
C'est poisson d'avril, Philippe. Ah, t'as vu? Je t'ai bien eu là.
C'est le vendredi le premier, mais c'est le vendredi premier. C'est la nuit du doute.
C'est la journée du mensonge blanc. Ils appellent ça le mensonge blanc. Il paraît qu'on aurait le droit de mentir. Alors que le prophète a dit La'anallahu al-kadhiba walau kana mazihan. Un Dieu maudit le menteur, même si c'est pour plaisanter.
Non, parce qu'après, il faut dire poisson d'avril.
Mais même.
En fait, vous faites votre mensonge et après, vous dites poisson d'avril.
Ben non.
Donc c'est... là, voilà, Imam Abdelali, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute le 1er avril.
Le Coran de la Mecque ou le Coran de la, je sais pas quoi. Tout ça, non. On ne ment pas, Philippe. Le mensonge, c'est prohibé, même pour plaisanter, on ne ment pas. Donc, tu plaisantes sans mentir.
Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que, alors, est-ce que ça veut dire que tout le monde est d'accord?
Que?
Ben, pour dire qu'il n'y a pas de doute. Parce que s'il y a que la mosquée de Paris qui dit qu'il n'y a pas de doute,
Non, tout le monde. En France, en tout cas, on est tous d'accord pour penser que, étant donné que la conjonction de la Lune va se faire bien en amont, on aura le temps de voir la Lune la veille. Donc, le monde musulman probablement va annoncer le Ramadan le 2. Donc, tout va bien se passer pour le début du Ramadan.
Ça veut dire que le premier jour de mois de Ramadan, ça sera vendredi. La première nuit du Ramadan sera le vendredi.
Ça sera vendredi soir.
C'est ça.
À partir de le Maghreb, effectivement.
D'accord.
À partir de le Maghreb, les gens commencent à prier Tarawih. Disons après l'Aïcha. Après l'Aïcha, les gens vont commencer à prier Tarawih dans les mosquées. C'est le vendredi soir qu'on débute, Inch'Allah, le mois du Ramadan. Et le lendemain, on commence le jeûne. Parce que je rappelle que le Ramadan, c'est d'abord un mois de bénédiction et pas forcément un mois de jeûne. Il faut arrêter de tout le temps associer le Ramadan avec le jeûne. Le Ramadan, c'est plein d'autres choses. C'est pas que de jeûner, c'est vivre.
Enfin, même si le pilier, c'est quand même le jeûne.
Le principal acte d'adoration, c'est le jeûne, effectivement. Mais ce n'est pas le seul, et c'est loin d'être le seul. Le Ramadan, c'est plusieurs attributs. Hein, c'est ce qu'on va normalement essayer de découvrir aujourd'hui. Le Ramadan, c'est énormément d'attributs, de qualifications qui ne se limitent pas aux jeunes.
Bien, et c'est ce que nous allons voir ce matin. Je rappelle que si vous avez des questions à poser à l'imam Abdelali Mamoun, eh bien vous pouvez le faire en direct au standard de l'islam au présent, 01 53 48 3000. Alors, vous avez commencé à parler des attributs, imam Abdelali, qui permettent de mieux comprendre la grandeur de ce mois. Alors, quels sont tous les attributs de ce mois de Ramadan?
Alors, on a dit donc que le Ramadan, c'est le mois du jeûne, en effet. Donc, c'est le mois du jeûne, c'est-à-dire le fait de... Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que le jeûne, dans la compréhension de la culture chrétienne, n'a pas forcément la même définition que dans le Coran. Dans le Coran et en islam. Le jeûne, ça n'est pas que ne pas manger, ne pas boire, ou très peu manger, ou ne pas manger et boire. Chez les chrétiens, le jeûne, c'est diminuer sa quantité de nourriture. Alors que chez les musulmans, ce sont des règles bien spécifiques. Jeûner, c'est quoi? C'est pour les musulmans, pour l'islam, pour ce qui est demandé en matière de quatrième pilier de l'islam, qui est le jeûne du Ramadan, c'est ne ni manger, ni boire, ni consommer des relations intimes, ni inhaler des produits tels que la cigarette, etc. De l'aube, c'est-à-dire de l'fajr, dès l'apparition des premiers rayons blancs qui vont annoncer le début de l'aube, c'est-à-dire le fajr, attention, non pas shuruq, et qui dure toute la journée comme ça, jusqu'au coucher du soleil. Et dès que le soleil se couche, c'est l'heure de le maghreb. Donc de l'adhan al-fajr jusqu'à l'adhan al-maghreb, c'est les horaires que doit respecter le croyant, dans lequel il doit s'abstenir de manger, de boire, de consommer des relations intimes pendant tout un mois, et ne pas fumer, et bien sûr y associer un certain nombre d'attitudes, d'éthiques et de comportements moraux, de noblesse de caractère, de bonté pieuse, etc., pendant de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et c'est bien important aussi de définir qu'est-ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé quand on parle de mois du jeûne. Il est autorisé, par exemple, de se brosser les dents. Même dans la journée du ramadan, on peut se brosser, à partir du moment où on se rince bien la bouche. Ce qui rentre dans la bouche n'annule pas le jeûne. Ce qui est avalé, c'est ça qui va annuler le jeûne. À partir du moment où ça passe par la gorge et que c'est avalé, ça annule le jeûne. Si c'est avalé par le nez aussi, ça annule le jeûne, puisque du nez on va arriver à la gorge et c'est la gorge qui va donc avaler, ça annule le jeûne. Mais ce qui va passer par les yeux ou par les oreilles, ce qu'on appelle al-manfad al-ghir al-mu'tad, donc c'est un orifice non naturel qui n'est pas normalement utilisé pour insérer et inhaler quelque chose, eh bien cela n'annule pas le jeûne. De la même manière quand on parle d'injections, les injections intraveineuses, intramusculaires, toute forme d'injection médicamenteuse n'annule pas le jeûne. Pour ce qui est des injections nutritives, ça c'est chaud. Ça, en fin de compte, c'est à éviter. Il y a divergence sur la question. Mais moi, je pense qu'on ne devrait pas avoir le droit de pouvoir s'injecter des sérums physiologiques, des sérums, nutritifs, ou des vitamines, etc. Ça, c'est tricher. Ça s'appelle ruser avec Dieu, et Dieu ne peut pas accepter qu'on ruse avec lui.
Enfin, en général, les gens qui ont ce genre de sérum, c'est pas pour manger, c'est pas pour s'alimenter. C'est à des fins qui sont médicales.
Il y en a aussi qui pourraient très bien le faire. Par exemple, tu sais, les bodybuilding, là, tu sais, ceux qui font pour les muscles, là, ils s'injectent.
Les bodybuilding.
Bodybuilding, là, voilà, tout ça. Ils peuvent effectivement ajouter des compléments. Des stéroïdes et compagnie. Voilà, tout ça, ça annule. Normalement, pour moi, ça annule tout ce qui est nutritif et ce qui va gonfler les muscles, qui va donner de la force au corps, alors qu'on est censé affaiblir le corps par le jeûne. Eh bien, pour moi, ça ne peut pas être toléré, accepté. Je suis l'avis des savants qui disent que ça annule le jeûne. Voilà, pour ne pas imposer mon point de vue. Je sais qu'il y a d'autres points de vue qui disent que c'est pas grave, on peut le faire. Mais moi, je suis d'avis de ceux qui l'interdisent, catégoriquement.
Alors, on va continuer sur les attributs de ce mois de Ramadan, Imam Abdelali, oui. Si vous voulez bien. Quels sont les autres attributs?
Le mois du Ramadan, c'est le mois d'abord de la patience. C'est le mois de la patience. On doit pendant un mois entier respecter ces règles-là, dans lequel on va faire preuve d'endurance. Alors l'endurance, c'est quoi? La patience, c'est quoi? C'est trois choses. C'est d'abord la patience dans l'accomplissement des actes appréciables, c'est-à-dire le fait de jeûner d'abord, et puis aussi de prier. Qiyam Ramadan, Qiyam Laylat Qadr, le fait de prier la nuit du destin. Donc toutes ces actions, ces efforts que l'on va décupler, que l'on va dépenser pour pouvoir se rapprocher de Dieu, mais aussi on va faire preuve de patience en matière d'avarice contre tous ces vices tels que l'avarice, donc on va faire preuve de générosité, etc. Ce sont des efforts complémentaires qui exigent de la patience. Aussi, on va être patient en combattant son alter ego et en essayant de faire en sorte de ne pas succomber au péché. Donc c'est la patience, l'endurance contre les mauvaises actions. Et puis enfin, la patience dans l'adversité, dans la difficulté. Le ramadan, c'est le mois, souvent, où quand on est patient, on obtient à la fin le succès et la réussite. Quand tu es patient, par exemple, dans le travail que tu fais, à l'école, dans ton travail, dans ta vie professionnelle, etc., eh bien, et que tu vas exceller encore plus pendant ce mois béni du ramadan, eh bien là encore, c'est le succès qui est au bout et qui est à l'issue de cette... de toute cette patience et de toute cette endurance que tu as fait preuve pendant ce mois béni du Ramadan. Donc le mois du Ramadan, c'est le mois de la patience. Le prophète dit shahr siyam huwa shahr sabr wa sabr jazaohul jannah. La patience a pour récompense le paradis. Le Ramadan, c'est aussi le mois de l'engagement et surtout du renouvellement de cet engagement avec Dieu. C'est tajdid al-ahd ma'a Allah azza wa jalla, tajdid l'ilaqa, c'est d'abord renouveler sa foi, puisqu'on dit que la foi s'use comme s'usent les vêtements qui au bout d'un certain temps perdent de leur vigueur, de leur caractère neuf, ils sont plus neufs. Donc le Ramadan va rendre la jeunesse à ta foi, va lui redonner de la vigueur, va lui redonner du renouveau. C'est ce qu'on appelle tajdid al-iman. Le prophète, on l'a interrogé sur cette foi, il a dit jaddidu imanakum, car la foi s'use comme s'use les vêtements que vous portez sur votre corps. Et là, le compagnon a dit, ya Rasulallah, wa kayfa nujaddidu imanana, comment pouvons-nous renouveler cette foi? Il a dit, multipliez la formule la ilaha illallah. Et c'est effectivement une des quatre caractéristiques que doit s'imprégner le croyant pendant le mois du Ramadan. C'est d'abord de multiplier la formule la ilaha illallah, wal istighfar, wa anta astaghfiru, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Donc le mois du Ramadan, c'est le renouveau, c'est l'engagement, c'est un travail que l'on fait au fond de soi-même pour renouveler son engagement avec Dieu et dire, ya Rabbi, j'ai décidé d'être un vrai serviteur qui obéit parfaitement à tout ce que tu attends de moi, et je ne serai que un agent de bonté, un acteur de bienfaisance et de bienveillance à l'égard de tes créatures, inshallah tabaraka wa ta'ala. Et c'est ce que doit renouveler, avant de faire l'intention du jeûne, on doit faire cette intention de renouveler cet engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois du Ramadan, c'est le mois de la purification. La purification de l'âme, c'est une formation, c'est un stage pour l'âme. Le croyant va forger, va dompter, va apprivoiser son âme sauvage qu'il a au fond de lui-même, son âme passionnelle qui l'encourage à faire le mal, qui fait ce qu'elle a envie de faire. Eh bien, cette âme va être domptée par le jeûne. Le jeûne, ça va être un mois où ce qu'on va travailler par la patience, bien sûr, par l'endurance, cette âme passionnelle. Avec le temps, on arrive, inshallah, à dompter et à s'assurer que cette âme n'a de passion que ce qui plaît à Dieu. N'a de passion, n'aime que ce qui plaît à Dieu. Et donc, n'aime que ce qu'aime Dieu. Finalement, on devient une certaine symbiose, une harmonie, en harmonie avec notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ce qu'il aime, on l'aime. Sur ce qu'il déteste, on le déteste. C'est tout simple. Et travailler ça, ça va être pendant ce mois du Ramadan qu'on va le faire. Le mois du Ramadan, c'est le mois de la baraka. Alors, que veut dire le mot baraka? On dit shahr mubarak. Ici, on dit mois béni. Donc, c'est le mot baraka veut dire, traduction, bénédiction. Que signifie le mot bénédiction? C'est ce qui est peu et rapporte beaucoup. Voilà, c'est effectivement un effort minime, ne pas manger, ne pas boire, ça n'exige pas forcément, mais dont la récompense est énorme. Et les bienfaits, les avantages sont gigantesques, sont énormes. C'est comme quand tu pries pour quelqu'un et tu lui souhaites que Dieu bénisse ses biens, barik lahu fi mali, qu'il lui donne la bénédiction dans son argent, etc. Ce n'est pas prier pour qu'il en ait plus, mais pour que cet argent lui profite plus. C'est pas important d'en avoir trop. C'est important de pouvoir bien en profiter et de pouvoir véritablement l'utiliser à bon escient et pour contribuer au bien-être de soi-même, de sa famille et de son entourage. C'est cette bénédiction que nous offre le mois du Ramadan, c'est d'avoir le Ramadan décuple la récompense des petites actions. Donc une petite action, une petite bonne œuvre rapporte beaucoup.
C'est cette notion. Décupler, c'est fois 10.
Multiplier, décupler, sanctifier. Bref, en tout cas, jusqu'à 70 fois, nous dit le prophète. Man adda fiha faridatan fa ka'annama adda 70 faridatan fi ma siwa. Celui qui fait un acte obligatoire aura la récompense de 70 bonnes actions. Le mois du Ramadan, c'est aussi le mois du repentir. Le mois du repentir, c'est-à-dire le mois où on profite pour se faire pardonner et changer radicalement son comportement pour faire en sorte que ce que l'on faisait qui était détestable et que l'on sait être détestable aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, on arrête. Tout simplement, on décide de faire son mea culpa, hein, c'est le repentir, c'est taouba, et dire que moi, ce mois du Ramadan, je vais arrêter toutes les bêtises, toutes les péchés, toutes les mauvaises actions, toutes les turpitudes qui déplaisent à Dieu. Et donc, ça va être ce mois où est-ce que je vais changer et devenir quelqu'un de meilleur. Le mois du Ramadan, c'est le mois du rapprochement. ou est-ce qu'on profite de ce mois pour se rapprocher de Dieu? Il y a le verset 186 qui justement est énorme et qui juste avant 185 débute par le mois du Ramadan, Shahr Ramadan, et est suivi par le verset les nuits du Ramadan vous êtes autorisés ceci cela. Donc il est dans cité au milieu entre le 185 et le 187. Ce verset-là qui vient s'incruster au milieu du Ramadan, c'est pas pour rien, pour nous dire que le mois du Ramadan c'est le mois de dans lequel on se rapproche de Dieu. Dieu dans le Coran dit dans ce verset 186.
De quelle sourate?
Baqara, bien sûr.
Baqara. Oui, mais Baqara. Non,
c'est vrai.
Non, vous êtes bien gentil,
raison.
Mais
c'est vrai, c'est vrai. Donc sourate al-Baqara, verset 186.
Parce que la sourate Baqara, c'est la sourate du Ramadan.
C'est là où est cité tout pratiquement voilà. Tous les versets qui parlent du Ramadan. En effet, verset 185, 187 et non 184 aussi et 183. Donc ces versets-là nous parlent. Justement, dans le 186, du lien que doit avoir le croyant avec son Créateur. Et il dit, Dieu, et s'il t'interroge à mon sujet, là, Dieu parle à son prophète, je suis tout près. Il dit, je suis tout proche. Je suis proche de lui. فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي. J'exauce les prières de celui qui m'implore. Donc, le mois du Ramadan, c'est le mois où est-ce que par ce fait d'être rapproché de Dieu, on peut l'implorer, on peut lui demander l'aide, le soutien. Et, Inch'Allah, on obtient d'Allah subhanahu wa ta'ala l'aide et le soutien.
Est-ce qu'on sait pourquoi il n'y a pas de sourate, Ramadan, d'ailleurs?
Il n'y a pas de sourate zakat. Mais il n'y a pas sourate salat.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de sourate
pour les six piliers de la foi.
Sur les piliers.
Ouais, non, il n'y a pas. Ils sont à l'intérieur des sourates du Coran.
Ouais.
Après, pourquoi Dieu a décidé de les appeler de telle ou telle manière? Souvent, de toute façon, pratiquement tout le temps, il y a au moins le mot du nom, c'est-à-dire le mot avec lequel il a appelé le nom de la sourate, qui est cité dans la sourate. Par exemple, je dis wal asr, il y a le mot sourate al asr. Elle est dans l'asr. Par exemple, Alif Lam Mim Fussilat ayatou. Le mot Fussilat, c'est le nom de la sourate. Et tu vas retrouver à chaque fois le mot cité dans la sourate elle-même, qui porte le nom de cette sourate.
Voilà. On continue. Imam Abdelali a évoqué les attributs du mois de Ramadan ce matin. Je rappelle que si vous avez des questions à poser à l'imam, eh bien vous composez le 01 53 48 3000. C'est le numéro du standard de l'islam au présent. 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beur FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Et l'imam Abdelali Mamoun qui répond à vos questions, le mois de Ramadan qui arrive, on est en train de dérouler avec vous ce matin les attributs de ce mois que vous nous avez dit tout à l'heure, imam Abdelali.
Oui.
Je ne suis pas très sûr qu'elle soit française, ma phrase. D'ailleurs, je me demande si je ne suis pas en plein mamounisme.
Ouais, c'est quoi?
Donc, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il ne se résumait pas.
Vous nous avez dit tout à l'heure. Je pense qu'elle est tout à fait mamouniste, cette phrase.
Non, c'est une femme, une phrase mamouniste.
Mamouniste, d'accord. Et donc,
qu'il ne se résume pas aux jeunes. Et on est en train de voir les attributs. Il y a beaucoup d'appels au standard. On a. C'est Joumana qui nous appelle de Toulon. Joumana, bienvenue.
Joumana. Oui, c'est un Allô? Joli prénom, Joumana.
Bienvenue, Joumana.
Bonjour, Philippe. Bonjour, Shirna. Bonjour. Salam alaikum. Mm-hmm. Voilà. J'ai deux questions. Je vais faire vite pour que tout le monde puisse profiter. Voilà. Donc, ma première question, c'est que l'année passée, en Ramadan, j'étais enceinte. Et ils ont découvert un diabète gestationnel.
Oui. Ouais.
Et quand j'ai accouché et tout, j'étais hospitalisée et finalement, ils m'ont dit que le diabète, je l'avais eu bien avant. Du coup, j'ai le diabète type 2 et je n'ai pas pu rendre parce qu'ils sont en train de stabiliser pour l'insuline et tout. Donc, d'après mon médecin, cette année aussi, je ne pourrai pas, ni l'année prochaine. Je voudrais savoir comment puis-je...
Vous versez la fidia, tout simplement? Le Coran D'accord. est clair là-dessus. Ou ala alladhina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin, verset 183 de sourate al-Baqara, hein, qui dit que ceux qui ne peuvent pas, qui ne sont pas en mesure de jeûner, ils s'acquittent de la fidya.
Et comment je puisse savoir c'est combien cette fidya et
Je viens de vous dire 5 euros pour chaque jour non jeûné.
D'accord.
Vous donnez 5 D'accord. euros pour chaque jour, mais vous ne les donnez pas avant la fin du Ramadan. Vous attendez la fin du Ramadan d'être sûr de ne pas avoir pu jeûner le mois du Ramadan. Et à ce moment-là, vous versez pour chaque jour non jeûné 5 euros. Vous la donnez avec Zakat al-Fitr, comme ça c'est bien. Vous mettez D'accord. Zakat al-Fitr 7 euros, Zakat, c'est 7 euros par personne dans la famille.
Oui, par tête, oui.
Vous êtes combien dans la famille?
Ben, on est 4. En fait, j'ai un bébé, une fille de 7 ans, et mon mari et moi.
Et tous, donc ça fait 4 fois 7, 28.
D'accord.
Plus 150 euros. Ça fait 178 euros. Voilà. D'accord. Vous donnez ça avant l'Aïd, comme ça c'est bien.
D'accord. Et ma deuxième question, je vais faire vite. Oui, oui, bien sûr. Ma deuxième question, je vais faire vite. En fait, mon père, il est décédé en Algérie. Mm-hmm. Et j'ai eu ma part d'héritage. Mm-hmm. Mais mon
Vous
père,
avez de la chance.
Fait,
parce qu'en général, les filles, ils n'ont rien du tout d'avoir en Algérie.
Elles sont à la moitié, non?
Oui, mais ils ne donnent pas. Les frères, ils ne donnent pas. Ils ne respectent
non,
pas.
Non, non, non. Moi, ma mère, elle avait du bien. Moi, elle avait ma mère un grand bien. Moi, j'ai laissé ma part pour mon frère, du coup. Il est, on va dire, il est à l'abri. Du coup, j'ai un seul frère. Enfin.
D'accord. Et donc, c'est bon,
mon père, il s'est remarié et il a coupé toute relation avec nous depuis, je sais pas, plus de 8 ans.
Pourquoi?
Parce qu'il s'est remarié. Il a coupé tout court. Donc, on a essayé. Moi-même, j'ai essayé. Je lui écrivais et tout, mais il répondait pas. Voilà. Donc, il est mort subitement avec le Covid et du coup, voilà. Mais moi, écoutez, ma part, sincèrement, mon mari, il est d'accord. Ma part, je la veux pas. Je veux la donner en son nom pour que.
Il veut la donner à qui? Petite...
Je sais pas. Est-ce que je dois donner à une association
Alors,
en Algérie?
Alors, est-ce que votre père, il a fait le Hajj?
Oui, oui.
D'accord. Eh bien, oui, ben vous en faites une sadaqa pour lui, avec la niya de faire la sadaqa pour lui.
D'accord. Ouais.
Vous la donnez à une organisation, ben voilà, il y a le Secours islamique là, qui est en train de récolter pour aider les nécessiteux dans le monde, là où il y a des conflits, là où il y a des tout ça. Et donc voilà, n'hésitez pas à envoyer ça au Secours islamique, ça va être plus simple.
D'accord.
Ou bien
d'accord.
En Algérie, c'est en Algérie cet argent, il est?
Oui, ils sont en Algérie.
Eh bien, vous les donnez aux pauvres d'Algérie. Vous voyez qui c'est autour de vous en Algérie, la famille par exemple, les gens qui sont dans le besoin dans la famille.
D'accord. Donc je peux donner ma part. Y a pas...
Oui,
parce que la famille me dit non,
d'abord,
c'est
récupérez-la,
ta part.
Récupérez-la d'abord et ensuite vous la donnez.
Je l'ai récupérée. Voilà. Okay.
Et bien maintenant vous pouvez, si vous voulez, si vous le souhaitez. De toute façon, c'est votre argent, que ce soit bien clair.
D'accord.
D'accord, ça soit bien.
D'accord. Et pour ma part de la maison, parce que j'ai une part, parce que comme il avait une maison qu'il avait mis à notre nom, on est deux filles, un garçon. Et puis je sais que sa femme, elle a une petite part, parce que c'est.
Oui, dépêchez-vous, ma soeur, parce qu'on a d'autres auditeurs. Allez-y.
Voilà. Est-ce que je peux donner ma part, par exemple, à sa femme?
Oui, oui, vous faites ce que vous voulez, madame, ça soit clair.
D'accord.
Ce qui est
d'accord.
À vous, vous en faites ce que vous voulez.
D'accord.
Vous n'avez pas besoin de me demander. Ouais, pas besoin de demander
d'accord.
À l'imam. Ce qui est à vous, vous en faites, voilà, vous en faites ce que vous voulez. D'accord.
D'accord. Voilà, je vous remercie, Imam.
Joumana, ça veut dire la grosse
oui.
Perle, Philippe, vous savez ça?
Oui, exactement.
La grosse
c'est une
perle.
Voilà.
La très grosse
voilà.
Perle. On appelle ça Joumana en arabe.
Joumana, qui nous appelle de Toulon. Merci Imam d'avoir Charles. Été avec nous.
Au revoir.
Au revoir.
Il y a une règle qu'il faut vraiment respecter,
ouais.
S'il vous plaît.
C'est une question.
C'est une question à l'imam, parce que surtout quand vous dites qu'elles sont petites et qu'elles sont grandes, ça veut dire que les auditeurs qui sont derrière, ils peuvent pas poser leurs questions. Et après, si vous avez d'autres questions à poser, l'imam donne son numéro de téléphone et vous pouvez l'appeler hors antenne, bien sûr. Alors, on a Youssef qui est avec nous. Youssef, bienvenue.
Oui, salam alaikum, bienvenue à vous aussi.
Salam, et il nous appelle voilà. Où, Youssef?
Voilà, je vous appelle de la région parisienne, hein, de la Seine-Saint-Denis. Je vous appelle parce que j'ai une question précise. Mmh. Voilà, moi je fréquente une musulmane, et j'aurais voulu savoir, est-ce que je voudrais faire un halal, est-ce que je peux faire un halal en privé, parce que c'est sa mère ne m'aime pas, et puis moi, du côté de ma famille à moi, bon, ils sont pas pour.
Mais vous êtes musulman,
voilà.
Vous?
Oui.
Oui, d'accord. Vous êtes musulman, elle est musulmane.
Oui, c'est ça.
D'accord. Elle a quel âge, cette dame?
Elle a 43 ans.
Machallah. Bon, 43 ans, elle est suffisamment mûre, majeure et vaccinée pour prendre son avenir entre
vaccinée,
les mains.
Vaccinée, on ne sait pas. Mais...
Vaccinée,
oui. Mais le problème, c'est qu'elle est soit influente que sa mère.
Quand elle est petite, ils ont dû la vacciner, t'inquiète. Voilà. Hein, comment? Elle est influente de sa mère.
Bon, influence de sa mère qui n'est même pas.
Sa mère va finir par le savoir.
Oui, mais elle le sait déjà, mais je veux dire, mais est-ce que je peux faire un halal en privé?
Bah, il faut toujours quand même l'accord d'un homme de sa famille, quelqu'un qui va la représenter. Il y a bien un frère ou son père, il est vivant?
Oui, il est vivant.
Et il est d'accord, lui?
Lui, il est d'accord, lui. Il y a pas de problème.
Alors, vous le faites venir au mariage, il donne la main de sa fille à, voilà, il te donne la main de sa fille devant un imam. Et voilà, vous faites le mariage civil et tout ce qu'il faut pour être bien dans votre vie.
Hein. D'accord.
Charles.
Ok.
Allez.
Merci.
Bon courage à vous.
C'est tout.
Bon.
Je vous remercie, Ahad.
Merci, Youssef. Alors, la règle pour tout le monde, c'est que pour
se marier, il faut l'accord de son tuteur légal.
Ça suffit.
Ça suffit.
Même si la famille est contre.
Voilà. C'est pas leur problème. De quoi je me mêle? Attends. T'es contre? Pourquoi t'es contre? Moi, j'étais pas contre quand t'as choisi ton mari ou ta femme. Pourquoi aujourd'hui tu viendrais être contre mes choix à moi? Tu te mêles de mes affaires. Maintenant, si t'es contre, t'as une explication à donner. D'accord. Mais c'est quoi ton explication? Donne-moi tes arguments. Après, il y a des arguments. Si le gars, c'est un drogué, un skairé, un alcoolique, ou un homme violent, etc. Là, oui, effectivement, je dois écouter ma famille. Et je dois faire attention à avec qui je vais décider de faire ma vie. Si c'est pour vivre un calvaire avec un homme ou une femme, hein, ça peut être aussi dans l'autre sens, qui me pourrit ma vie, là, c'est sûr que là, ils ont raison d'intervenir. Mais sinon, s'ils ont aucun élément pour s'opposer, pourquoi ils viendraient dire non? T'es qui, toi, pour décider comme ça, sans raison valable, de dire non? Faut m'expliquer pourquoi.
Nabil est avec nous au 01 53 48 3000. Nabil, bienvenue.
Bonjour, salam alaikum.
Wa alaikum salam. Marhaban ya Nabil.
Marhaban bek cheikh. Ma question est simple. En fait, dans le travail, on a des amis, des collègues qui ne sont pas musulmans. Et après leur mort, leur décès, quoi, est-ce que, de façon de parler, on dit la yarhamou, est-ce que c'est...
Non, on ne dit pas la yarhamou. On peut dire que Dieu est son âme. On peut dire la paix à son âme. On peut dire mes sincères condoléances. Je m'associe avec vous dans la peine en parlant à sa famille. Donc présentez vos condoléances, montrez de la compassion et de la consolation à l'égard de sa famille. Tsabbarhum ta'tihum as-sabr as-silwan à la famille. Mais non, hadik Allah yarhamu hadik kul shi wa
c'est réservé aux musulmans.
Hadik c'est des expressions qui sont des formules réservées aux musulmans. At-tarahhum wa al-istighfar la yajuzu illa للمسلمين قال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم قوم كفروا بالله ورسوله donc هؤلاء الكفار لا يصلى عليهم ولا يغسلوا ولا يدفنوا في مقابر المسلمين ولا يستغفر لهم ولا يسترحم لهم لا استرحم ولكن paix à son âme des mots doux des mots gentils pour la famille et voilà après son âme c'est Dieu qui l'a entre ses mains il fait ce qu'il veut. On ne dit pas qu'il va en enfer, on ne dit pas qu'il va au paradis. Voilà, tu vois ce que je veux dire? On dit, voilà, c'est Dieu qui a son âme et il fait ce qu'il veut. Dieu fera et décidera de ce qu'il veut de cette âme-là. Mais on ne jette ni l'anathème, ni on casse le khatar ta'annas en disant, ouais, hadamat kafir, radim shil jahannam et tout ça, ces mots-là, non. Il ne faut pas dire ces mots-là. D'accord, ça ne se fait pas. Il faut quand même respecter le vivre ensemble et le bon voisinage avec les amis, avec tous c'est des amis, hein, on a le droit d'avoir des amis et leur famille, bien sûr.
Parce que si j'ai eu une discussion avec quelqu'un, on a cité quelqu'un qui est décédé, j'ai dit Allah yarhamou, on me dit non, on ne dit pas Allah yarhamou.
Oui, il a raison, on ne dit pas Allah yarhamou.
Chek
el baraka, khoya. Salam alaikum.
C'est une très bonne question, Nabil, merci. Alors, on a Brahim qui est avec nous. Brahim, bienvenue.
عليكم امام
وعليكم السلام الجميع à tout le monde
بارك الله فيك
وفيك البركه tu peux dire bonjour aussi à Philippe
بارك الله فيك ce que je voulais savoir en fait la question c'est que qu'est-ce qu'on a le droit de faire après le futur qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire après le futur
après le futur on a le droit de manger de boire de consommer des relations intimes avec sa femme. Oui. On n'a pas le droit de fumer parce que c'est haram de fumer de toute façon. Il faut profiter du ramadan pour arrêter de fumer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a le droit de tout faire.
Tout ce qui est halal. On n'a pas le droit de fumer.
Ouais, parce que à la base, fumer c'est pas halal, donc on peut. Que ça soit ramadan ou pas ramadan, normalement on ne doit pas fumer.
Si les gens qui fument après la rupture du jeûne,
ouais, ils ont commis un péché. Mais même s'ils le font maintenant, ils commettent un péché puisqu'ils mettent en danger leur vie. Qui n'est pas la leur, c'est la vie que Dieu vous a confié une vie, c'est un dépôt qu'il vous a confié, vous devez la préserver.
Il y a consensus là-dessus?
Ah oui, il y a consensus sur le fait que tout ce qui nuit au corps humain est péché, tout ce qui est nocif est interdit. Dieu dans le Coran dit wa hurrimat alaykum al-khaba'ith. Tout ce qui est nuisible, c'est marqué sur le paquet.
Et le bédo? Il y a pas de paquet sur le bédo.
C'est quoi le bédo?
Les joints.
Ah, le juin.
Oui.
Le juin, bah, comme
le
c'est.
Le juin à la rupture.
Comme on sera au mois d'avril, c'est pas autorisé. Il faut attendre un petit peu.
Il est en forme, l'imam. Et là, il y a, à partir d'un certain niveau, vous voyez, là, de répartie.
Ouais, là, c'est bon.
Moi, je suis.
Les joies sont encore pires que la cigarette, Philippe. C'est quoi cette question?
Alors, ma deuxième question,
l'imam. La cigarette, la drogue, tout qu'elle soit légère ou
lourde. Je vous promets, je connais des gens qui, pendant le mois du ramadan, se font un petit joint à leur
le
rupture.
Le soir. Ouais. À la rupture.
C'est parce que, avec la chicha.
En tout cas, ça n'annule pas leur jeûne que de fumer le soir. Ça n'invalide pas le jeûne. Le jeûne reste valable puisqu'il n'a pas fumé dans la journée.
C'était ma question.
Par contre, s'il avait fumé dans la journée, ça aurait annulé le jeûne, bien sûr.
D'accord. Ma deuxième question est la suivante. J'ai entendu Maraboussier nous dire que la relation, en fait, pas la relation intime avec sa femme, mais le fait de le caresser, de l'embrasser, n'annule pas le jeûne. Est-ce que ça, c'est vrai?
Il a raison, tout à fait. Tout à fait. Seule la relation intime, c'est-à-dire, pour être cru, la pénétration.
On a dit non.
C'est bon, c'est non. Temps, c'est Philippe. Ça sera le seul mot que je dirais méchant.
Donc, on peut se faire un petit bisou pendant la journée.
Voilà, on a le droit. Voilà. Le prophète, on l'a interrogé concernant le bisou. Il a dit, ma belle, au madmada, il l'a comparé avec le madmada. C'est quoi le madmada? C'est le fait de mettre de l'eau dans sa bouche. Mmh. Est-ce que si je mets de l'eau dans ma bouche, ça annule mon jeûne si j'avale pas l'eau et que je la recrache? Eh bien, le compagnon a dit non, ça annule pas mon jeûne. Tant que j'ai pas avalé l'eau, mon ramadan n'est pas annulé. Eh bien, il dit que c'est pareil pour le bisou. Tant que le bisou ne se transforme pas.
Non.
En acte trop. Non. En tout cas, il est déconseillé pour les personnes qui ne savent pas se retenir, que d'avoir des attouchements excessifs en la journée du ramadan. Mais c'est pas interdit. Au contraire, il faut montrer de la compassion, de l'affection, de la sympathie avec sa femme. C'est pas parce que c'est Ramadan qu'on devient froid et distant l'un de l'autre. S'échanger un bisou, une caresse, un mot gentil, etc. C'est au contraire recommandé pendant le mois du Ramadan, à condition qu'on maîtrise la situation. On sait contrôler la situation. Faut pas dégénérer. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oh, y a quelqu'un? Bon, voilà. Donc il avait raison, ton marabout.
Merci beaucoup,
barakallah. Al-salam, à bientôt, au plaisir.
C'est quoi un marabout?
Un marabout, c'est murabit. Ça vient du mot murabit, ça veut dire c'était l'homme qui est en lien avec Dieu. C'est l'homme qui est en lien, c'est-à-dire c'est l'imam, c'est le cheikh, c'est le tcherno. Chez les Sénégalais, ils disent tcherno, c'est. Bien. Ça veut dire le marabout.
Alors, dans un instant, on ira en Ukraine retrouver le Secours islamique France qui est présent sur place. On va essayer d'avoir la relation au téléphone un peu compliquée ce matin. Puis si vous avez des questions à poser à l'imam Abdelali Mamoun, comme Brahim vient de faire à l'instant, c'est très simple. Vous composez le 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beur FM, 10h, 11h. L'islam au présent avec Philippe Robichon.
Et l'imam Abdelali Mamoun, urgence Ukraine, le Secours islamique France se mobilise. Nous sommes en ligne avec Yohannis. Bonjour et bienvenue, Yohannis.
Bonjour.
Vous êtes responsable d'urgence au Secours islamique France. Vous êtes où aujourd'hui?
Aujourd'hui, on se retrouve à Ternopol, là où on intervient actuellement.
D'accord.
Avec plusieurs genres d'activités.
Voilà, pour ceux qui nous écoutent, Ternopol, ça se situe où, Yohannis?
Ternopol, c'est à 150 km de la frontière polonaise.
Alors, on parle d'une action d'urgence en Ukraine, hein, de par sa situation et ses bases dans le monde entier, le Secours islamique a pu se mobiliser immédiatement. Quelles sont les actions que vous menez sur place actuellement?
Alors, pour le moment, on mène deux activités en même temps, une à la frontière polono-ukrainienne et une autre à la frontière Roumanie-Ukraine. Et nos activités, étant donné que les activités sont vraiment non seulement, je dirais, urgence parce que les besoins sont énormes, donc on fait la distribution mensuelle de paniers alimentaires, des kits hygiène mensuels pour en Ukraine d'abord les IDP, sédentaires et bi-hebdomadaires, et surtout que ceux qui sont en transit pour la Pologne. Donc, on intervient à la frontière, précisément en Ukraine, on est à Boudomierz, à la frontière Boudomierz et Gruzov, donc Pologne-Ukraine. Et on est allé un peu plus au sud, vers l'est, du sud-ouest, surtout à Skalat et Ternopil. là où, à Scalat, certainement, on nous a parlé d'une auberge dont on retrouve 30 familles des enfants avec handicap. Donc, étant donné qu'ils étaient au moins à 100 km de notre point d'intervention, on n'a pas hésité de se rendre là et en fait de les apporter l'assistance nécessaire.
Alors, j'aimerais une question, Akhil Karim. Comment vous faites pour acheminer les aides et quel type d'aide que vous fournissez à ces personnes qui vivent sous les bombes?
Alors, côté Pologne, pour le moment, à l'entrée de l'Ukraine, vu que les villes sont un peu désertées, et on achemine, toute la logistique se fait en Pologne, puis on enchaîne tout ce qui est panier alimentaire, kit hygiénique, le premier besoin, et tout au long du chemin, on a des stands pour des distributions de repas chauds, surtout à la frontière où on retrouve des milliers de personnes qui cherchent à entrer en Pologne. Et de côté Roumanie, c'est presque pareil. On est allé on collabore avec 30 centres à Cervinci. Et là, pareil. Et là, quand même, la ville, on retrouve encore la logistique, c'est possible. Les achats peuvent se faire sur place pour un peu aussi aider l'économie actuellement sur place. Mais on ne se limite pas aux premiers besoins. Donc, il y a des enfants, on doit aussi en même temps développer des espaces récréatifs pour des activités psychosociales et permettre aussi à certains enfants de suivre leur cours à distance.
Est-ce que les grandes ONG internationales sont présentes sur le terrain?
Alors nous, les grandes ONG sont bien sûr sur le terrain dans d'autres villes. D'accord. Et nous, lors de notre mission Explo, on s'est bien focalisé sur le terrain où on s'est rassuré qu'il n'y a pas des actions sur place afin qu'on pourrait éviter tout genre de doublons.
Voilà, c'est ça. Et c'est d'être complémentaire en fait.
Surtout de répartir équitablement les aides sur le territoire. En tout cas, moi, je voulais ajouter en tant qu'imam une petite parenthèse, c'est que la misère, le fait de faire une sadaqa ne se limite pas aux musulmans. Une sadaqa, une zakat, tout ce que l'on peut faire comme don, même les intérêts, on veut se débarrasser, eh bien, n'est pas réservé aux musulmans. Toute âme à qui vous accorderez une aide pour le soulager d'un malheur, eh bien, Allah Azza wa Jal vous le comptera de la même manière que si elle avait été faite à une personne de confession musulmane. L'islam n'est pas une religion qui est communautariste et qui réserve ses dons aux membres de leur communauté religieuse, mais à toute l'humanité. Mais je dirais même à toutes les créatures. Le prophète, il disait, même si vous donnez à boire à un chien, vous avez une sadaqa. Alors qu'en est-il d'un être humain? Donc arrêtez de polémiquer sur cette question-là. Si vous faites la zakat ou une sadaqa pour l'Ukraine, pour donner à des gens qui sont dans le besoin, à partir du moment où ils sont vraiment dans le besoin, ben vous êtes récompensé par Allah Azza wa Jalla. Et le secours islamique assure justement l'intermédiaire parfaitement et joue son rôle parfaitement dans ce travail-là.
Alors, on le rappelle, Imam Abdelali, le Secours Islamique France est présent avec des paniers alimentaires, des kits d'hygiène, des kits pour les nouveau-nés. Comment est-ce qu'on peut vous aider, Yohannis?
Alors, comme l'imam l'a bien précisé, nos actions s'inscrivent strictement dans un cadre humanitaire, sans discrimination d'origine ni religieuse ni politique. Et en tant qu'une ONG d'urgence, nous sommes là parce que notre action est tout d'abord nécessaire. Et nous serons toujours là où les gens ont besoin de nous. Donc, notre action principale, c'est de prendre le plus vite soin de personnes vulnérables. Toute aide, vu la complexité de la logistique, comme j'ai dit dans les deux pays, l'aide est vraiment nécessaire. L'aide financière est vraiment nécessaire afin qu'on puisse mobiliser une équipe à aller sur place, à apporter plus de l'aide non seulement à l'Ukraine, mais il y a des millions de personnes qui traversent, que ce soit côté Pologne, que ce soit Roumanie. Donc D'abord, c'est une prise en charge en Roumanie et en Pologne, puis au fur et à mesure, aller en Ukraine aussi.
Ouais, j'avais une question un peu polémique, c'est pas grave.
Non, parce qu'on a pas le temps.
Est-ce qu'il est vrai qu'il y a une discrimination là-bas avec les immigrés?
Il se peut, et raison pour laquelle on a prévu aussi une action parallèle, par exemple à Varsovie. On a un centre où on a bien mentionné qu'on peut accueillir les non-ukrainiens également. Donc toute personne se sentant marginalisée et en difficulté de avoir une auberge, elle est bienvenue. Donc
C'est pour ceux qui sont déjà en Pologne, hein, puisque Varsovie, c'est la capitale de la Pologne. Alors, rapidement, on rappelle les coordonnées du Secours Islamique France. Ioannis, s'il vous plaît.
Alors, les coordonnées...
On peut aller sur votre site internet, hein, de toute façon, c'est très simple.
Secours Islamique, voilà, c'est facile.
Je viens en aide à l'Ukraine.
Et hein, c'est le
01-islamique.org pour ceux qui veulent donner ce matin. Et donc, c'est le plus simple, hein, d'ailleurs, aujourd'hui. Mmh. Vous verrez, c'est en tête de site. Mmh. Imam Abdelali, vous voulez rajouter quelque chose?
Non, je suis... Il y avait le numéro de téléphone qu'il pouvait donner, Monsieur Ioannis. Vous voulez donner un numéro de téléphone ou quelque chose comme ça?
Oui, bien sûr. Alors, notre numéro de téléphone, c'est le 0... Juste une minute...
C'est le 01 60 14 14 14.
Voilà. 01 60 14 14 14.
Parfait, oui.
Merci d'avoir été avec nous, Imam Abdelali. On vous retrouve samedi prochain. Donnez rapidement votre numéro, Imam Abdelali.
Mon numéro à moi, c'est le 06 29 25 35 00. Je vais répéter, 06 29 25 35 00. Alors, c'est le numéro que je donne pour répondre aux questions, mais aussi pour s'inscrire pour le Hajj de cette année, ceux qui veulent partir avec moi. Ou organiser un Hajj par délégation, vous pouvez aussi m'appeler pour une personne décédée. On a toute une organisation qui est structurée sur cette question-là. 01-06-29, je répète, 06-29-25-35-00.
Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.